Il est assez simple de saisir qu'un cerveau directionnel, en tout cas, hein, qui a cette pensée, cette conceptualisation de ce qu'on vit, et plusieurs organes avec des systèmes nerveux qui existent. Ça fait donc plus d'organes qui ont leur autonomie et qui doivent aussi envoyer des informations. Donc il y a un chemin afférent qui ramène les affaires vers le cerveau, qui est évidemment plus important. Et vraiment cette nécessité de collecter l'information pour ajuster, ça parle d'ajustement organique, ça parle d'équilibrer et de pouvoir tenir compte des informations qui remontent. Donc oui, ah ouais, c'est 80% qui remontent et 20% qui descendent.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! L'intestin est notre deuxième cerveau. Voilà quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu quelque part, en tout cas moi personnellement, c'était à la sortie du livre « Le charme discret de l'intestin » de Julia Enders, il y a déjà plus de 10 ans. On apprend alors que notre santé commence de l'intérieur, plus précisément dans l'intestin. Or, de récentes découvertes scientifiques montrent que la connexion entre l'intestin et le cerveau influence profondément non seulement notre digestion, mais aussi nos émotions, nos décisions et même notre résilience mentale. J'ai voulu alors en savoir plus et je vais donc vous plonger aujourd'hui dans ce sujet passionnant et dont on parle peu, qui est la relation entre l'intestin et le cerveau. Pour me répondre, j'ai une invitée, docteur Nathalie Georget. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ravi de t'accueillir et que tu aies répondu à l'invitation. C'est le deuxième épisode de Healthwise. Tu es médecin généraliste, homéopathe, exerçant depuis 2007 près de Tours et avec beaucoup d'expérience dans la médecine fonctionnelle. Jusqu'alors, j'avais reçu que des naturopathes en interview, mais cette fois-ci, tu es à la fois issu de la médecine conventionnelle et aussi la médecine alternative avec l'homéopathie. C'est hyper intéressant comme parcours. Est-ce que tu trouves du coup que c'est complémentaire, ces deux formes?
Les deux formes de médecine? Oui. Oui. Ah oui, oui, ô combien. Un petit chemin pour y arriver. Un constat d'abord d'être face à des patients et de me sentir impuissante. En tout cas, face à eux, de me poser des questions, de comment les aider autrement qu'avec des réponses assez standardisées. Et de pouvoir écouter leurs différents mots, surtout quand on leur disait « ben, y a rien à faire » ou « c'est difficile et on ne peut pas faire plus ». Et le chemin de médecin m'a amené à aller chercher d'autres ressources pour répondre aux patients. L'homéopathie et la médecine nutritionnelle et fonctionnelle sont arrivées en même temps dans ma vie et se sont très très bien retrouvées avec la médecine allopathique.
Vraiment. Bon, c'est super de savoir qu'on puisse avoir les deux. Et comme tu connais peut-être déjà un peu mieux notre marque, Sunday, c'est le dimanche en anglais. Et à la fois, c'est le dimanche pour nous, c'est très personnel, mais aussi très important. Et du coup, moi, je me posais la question, comment tu commences ton dimanche? Qu'est-ce qui fait que tu réveilles ton intestin ce jour-là?
Alors, ça dépend des semaines, ça dépend de la semaine, comment elle a vibré, rayonné, sollicité. Et réveiller mon intestin, c'est une écoute. C'est une écoute de ce que je peux lui donner à manger tous les dimanches et surtout de pouvoir respecter son rythme. Ce que les semaines françaises et nos rythmes français ne permettent pas toujours. Donc voilà, j'écoute et des fois je le laisse tranquille et parfois je lui change de rythme.
C'est quoi les petites habitudes que tu as du coup le
dimanche ? Alors, je vais souvent me mettre en mouvement sans manger et être respiré, prendre le temps, surtout me mettre en mouvement. Et j'aime bien le rythme brunch et puis dîner léger le soir, le dimanche. Ouais, c'est ce rythme-là.
Top. Tu vois, en plus, ici, on est très à l'aise. On est auprès de la cheminée, en chaussettes. donc vraiment comme un dimanche, pratiquement. Un dimanche à la maison. Mais je voudrais quand même passer à ma première question sérieuse. Est-ce que tu te souviens du moment
où tu as découvert ou même reconnu l'importance de l'intestin pour notre santé? Qu'est-ce qui t'a marqué avec cet organe?
Les premiers moments, c'était tout de suite après la médecine, face aux difficultés des patients, face à mes difficultés de santé, qui ont été quand même très motrices dans mon changement et mon ouverture professionnelle. Et c'était d'observer ces troubles digestifs auxquels on ne donnait que peu de solutions, à part les faire taire. Mmh. C'est surtout ça. On fait taire et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc c'était ça l'enclencheur, en fait. Et c'est présenté des labos de cette médecine-là, de cette proposition-là, qui m'ont orientée vers des formations. Et j'ai redécouvert médecine. Vraiment, ça a été un cheminement de redécouvrir toute la physiologie, tout le déclenchement, les facteurs déclenchants des maladies, et surtout de comprendre des éléments que j'avais compris en apprenant médecine, mais qui ne s'étaient pas emboîtés, qui ne s'étaient pas reliés entre eux. C'est ça, le chemin.
Donc des connexions, en
fait. Ah oui, des connexions. Mm-mm.
Ce qui revient vraiment au sujet que je voulais apporter aujourd'hui. On entend un peu plus parler de cette connexion entre l'intestin, le cerveau, surtout dans les médias un petit peu plus, par le fait que ça pourrait être connecté avec nos émotions. Est-ce que tu peux me dire simplement, avec tes mots, c'est quoi cette connexion entre l'intestin et le cerveau ?
Cette connexion, c'est plusieurs plans. Il y a une connexion physique par des organes et des structures qui les relient. C'est une connexion chimique et hormonale. Il y a vraiment des chemins, des outils que l'organisme utilise pour pouvoir communiquer. Que ces deux réels cerveaux, parce qu'il y a vraiment ce cerveau, ce système nerveux entérique, ce système nerveux de l'intestin, qui a moins de neurones que le cerveau de la tête, mais qui est très important. Et qu'il y ait vraiment ces trois types de chemins et qu'ils fassent des allers-retours, qu'ils soient en communication. S'il y a deux structures qui peuvent décider, qui peuvent s'organiser d'un point de vue nerveux et organique avec de la chimie, il faut bien qu'elles échangent des informations, sinon ça fait comme deux chefs dans une entreprise. Ça marche moins bien. Ouf, qui collabore en tout cas.
D'ailleurs, j'ai entendu dire que, bien que toi tu dises que du coup il y a moins de neurones dans l'intestin que dans le cerveau, moi j'ai entendu qu'il y avait beaucoup plus d'informations envoyées de l'intestin vers le cerveau que dans l'autre sens, voire même 10 fois plus d'informations de l'intestin vers le cerveau. Donc vraiment ce chiffre, ça m'a frappée. Et ça illustre peut-être... à quel point c'est pas seulement un organe récepteur, mais un acteur dans la communication. Est-ce que c'est vrai ou qu'est-ce que tu peux me dire du coup avec cette connexion? Moins de neurones, plus d'informations.
Oui, c'est un jugement de valeur, moins de neurones, mais dans l'application. Mais il est assez simple de saisir que. Un cerveau directionnel, en tout cas, qui a cette pensée, cette conceptualisation de ce qu'on vit, et plusieurs organes avec des systèmes nerveux qui existent. Ça fait donc plus d'organes qui ont leur autonomie et qui doivent aussi envoyer des informations. Donc il y a un chemin afférent qui ramène les affaires vers le cerveau, qui est évidemment plus important. On évoquera un nerf important du système tout à l'heure,
quand c'est
le moment. Et vraiment cette nécessité de collecter l'information pour ajuster. Ça parle d'ajustement organique, ça parle d'équilibrer et de pouvoir tenir compte des informations qui remontent. Donc oui, c'est 80% qui remontent et 20% qui descendent.
Ah oui. Oui, justement, tu parlais du nerf. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à réfléchir à comment on allait faire cet épisode... j'avais vu pas mal de posts sur Instagram sur ce qu'on appelle le nerf vague et même moi je sais pas du tout ce que c'est et j'en ai pas entendu parler ailleurs. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur du coup cette particularité
de ce système-là?
Oui. Ouais.
Donc c'est un système d'activation face au danger, qu'on appelle le système sympathique, même si c'est pas une situation sympathique, qui active face au danger des réactions. Et on a un système pour relâcher. C'est ça qui amène la nécessité de faire des pauses, de laisser de l'espace dans sa vie pour que le relâchement puisse se réaliser dans le corps. Il s'appelle parasympathique. Mm-hmm. Et dans ce système parasympathique, il y a des nerfs crâniens qui agissent et il y a un système aussi, un plexus nerveux, un système de nerfs autour du sacrum. Et dans la transition, un grand système nerveux qu'on appelle le nerf vague, mm-hmm. qui part d'une zone de l'arrière du cerveau qui est d'ailleurs branché sur le tronc cérébral, une zone vraiment là derrière le crâne, et qui est la zone de gestion des émotions. Donc ça va commencer à connecter le système. Uh-huh. Ouais. Et qui descend et qui se divise en deux parties et qui se déploie en fait dans chacun des organes du corps qui a un fonctionnement autonome. C'est des systèmes nerveux autonomes. On ne va pas réfléchir à devoir digérer, ni respirer, ni battre son cœur. Donc ce système, il fonctionne comme ça de façon autonome. Et ce nerf a la particularité de communiquer, bien sûr, avec le cerveau, puisqu'il envoie des impulsions qui sont plutôt des impulsions qui agissent sur le système pour contracter, agir, faire les battements, faire les contractions dans l'intestin, toute cette motilité, tout ce mouvement. Et puis, il a cette particularité d'être éminemment sensoriel et capteur. Et il va aller capter, il va communiquer, il sait communiquer avec les bactéries du ventre, il sait communiquer avec la chimie qui est produite dans ces endroits-là et il collecte cette information. Il la ramène pour ajuster. C'est vraiment un système d'ajustement, comme un tuyau d'ajustement.
Mmh. Et du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs systèmes et pourtant, quand on est en période de stress, c'est tout qui est... qui est touché, il y a un équilibre qui est perturbé. Et du coup, ce lien entre stress et santé intestinale est de plus en plus étudié. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment le stress influence ces systèmes-là et du coup la santé intestinale?
Donc, j'ai commencé un peu à évoquer le système. Donc, quand on est en danger, alors le danger, c'est propre à chacun. Ça peut être son chef dans son entreprise, ça peut être sa situation familiale. Ou une peur. En tout cas, ça génère tout un système de réaction de mise en danger qui peut sidérer, mais qui libère des hormones, des médiateurs, de la chimie dans l'organisme qui accélère et qui libère surtout une molécule dont on entend pas mal parler, le cortisol. Mmh. Et ce cortisol-là, quand il est libéré, il induit plein de mécanismes. Il libère du sucre, on va avoir de quoi. Il faut de l'énergie, en fait, pour répondre à ça. Et cette énergie, elle est dépensée. Et cette énergie, évidemment, quand on est en danger, c'est pas le moment de digérer. Du coup, l'afflux nerveux sont dirigés vers les muscles périphériques, vers le cerveau. Faut penser aux stratégies, faut évaluer des stratégies. Et puis, l'intestin, il va se mettre en mode off. Et ce mode off, il est pas toujours confortable, puisqu'il y a moins de circulation sanguine. Du coup, il souffre. Véritablement, il est en souffrance. Et cette petite souffrance, bien sûr, on s'en remet si on se relâche derrière, mais cette petite souffrance va amener des contractions, va amener une évacuation. On peut penser aux diarrhées qu'on peut avoir dans un grand moment de stress ou avant de préparer...
En voyage
aussi, mais qui sont parfois liés à des germes, mais qui vont être liés simplement, on prépare un examen où on a eu très très peur, ou un sportif qui a fait un intense effort. En tout cas, vie danger, parce que c'est pas la nécessité, l'urgence n'est pas de laisser cette vie-là se réaliser tranquillement. Et donc, tout ce petit monde souffre, parce que ceux qui se nourrissent de l'afflux sanguin, il y a aussi toutes nos microbiotes, toutes nos bactéries. Tout le monde se met en souffrance. Et si ces souffrances sont répétées, qu'il n'y a pas les temps de relâchement, que l'information qui remonte tout le temps, ça va de plus en plus mal. Et tu fais quoi? J'ai toujours le même chef, en fait. Et puis, avec ma femme, ça va toujours pas. Ou les enfants sont en difficulté. Ok, comment on vit ça? Ou alors je mange des choses qui ne me conviennent pas. Ce stress-là va faire que la souffrance va s'installer.
Et l'inflammation aussi.
Et de fait, ce qu'on peut nommer maintenant, puisque tu me tends la perche.
J'ai juste deviné.
Oui. Ce qui se crée effectivement dans ce système-là, dans le système guerre, le système défense, tout le système aussi de notre immunité, va venir aider, va venir nettoyer, va venir absorber les détritus que crée une guerre dans un système. En tout cas, de guerre, on sait hein, que le virtuel et le réel, pour le cerveau, il y a peu de différence, en fait. Hein. Quand on met les casques virtuels, on a très, très peur ou on est très, très heureux. Une situation qui n'existe pas réellement. Et donc, ça induit des mécanismes. Et quand il y a ces situations-là qui se vivent, le système de défense, le système immunitaire vient, nettoie, défend, essaye de participer à la réparation. Et ça fait beaucoup, beaucoup de déchets. Et cette inflammation, si elle est répétée, encore une fois, si la situation génératrice de ce feu-là, de cette guerre-là, ne s'arrête pas, eh bien, on crée une inflammation chronique, un feu qui dure.
Et cette inflammation chronique, est-ce qu'on peut essayer de la minimiser ? Qu'est-ce que ce serait comme... petit conseil qu'on pourrait donner justement à ces gens qui sont en stress chronique, avec une inflammation chronique et qui ont du coup des problèmes au niveau digestif.
Ouais, là, c'est vraiment pertinent cet endroit-là de poser des espaces de solutions parce que on se dit que quand il y a la guerre, c'est pas toujours soi-même qui sommes détenteurs de solutions. Or, si, c'est là où cette histoire de nerfs vagues. Vont aller solliciter des techniques qui sont toutes assez connues, qui vont être toutes des techniques qui parlent du mot « pause ». Pose-toi, assieds-toi, enlève tes chaussures, respire. Donc, c'est toutes les techniques qui vont aller travailler sur la respiration, la capacité d'adaptation. En fait, plus on est stressé, plus notre espace d'adaptation il se restreint. Souvent, on est un peu acculé, on est de plus en plus sollicité et on voit de moins en moins d'espace solution. Et c'est de recréer de l'adaptabilité, que son cœur puisse avoir plus de variations, donc de faire de l'exercice physique, d'aller faire des techniques, on les connaît maintenant, la méditation pleine conscience, les techniques de respiration consciente, le yoga. Il y a vraiment beaucoup de solutions et c'est cet endroit-là, en fait, que ces solutions viennent solliciter. C'est vraiment cet espace de faire pause, respirer, pour que le temps d'intégration et de respiration du corps devienne un automatisme. Et là, l'inflammation, elle peut baisser. Là, les espaces de réparation peuvent se faire.
C'est marrant qu'on pense directement à juste souffler pour l'équilibre digestif. Et même, je pense, de fait, au magnésium, qui a des effets sur le stress, sur le système nerveux. Mais qui a aussi des petits effets sur la digestion. On choisit ses formes aussi de manière à ce qu'elles soient mieux tolérées. Il y a aussi parfois des formes de magnésium qu'on peut utiliser pour les brûlures d'estomac. Il y a même des formes de magnésium en transdermique qu'on peut mettre directement sur le ventre. Alors, même si d'abord il faut souffler, est-ce qu'on peut expliquer peut-être en quoi le magnésium peut avoir un effet sur le stress et sur l'estomac, via l'estomac?
Donc c'est une des magies de ces éléments minéraux, puisque c'est un des minéraux de notre planète. Ce sont des aides opératoires de tous nos systèmes. On appelle ça des cofacteurs, c'est des facteurs avec, ils viennent et ils aident. Et dans le magnésium, il va permettre de parler à tout ce qui est de l'ordre de la contraction et du relâchement. Et il va parler aussi de vitesse d'influx nerveux. Il va aller, dans un de ces grands aspects, aller ralentir l'influx nerveux. Donc, il va participer à laisser l'espace. Donc, quand on le consomme sous des formes qui vont, du coup, devoir passer dans le sang, et là, on va parler après des différentes formes, quand on le consomme, on va amener, s'il est bien toléré, donc c'est à ajuster. Je pense que les différentes formes, moi, dans mon expérience, c'est en fait assez individuel. OK, il y a des connaissances, on sait que sous des formes bisglycinate, par exemple, ça va être mieux absorbé, avoir d'autres efficacités, des glycérophosphates, ok, ça peut déranger un peu plus le ventre, mais avoir une efficacité assez rapide. Et ça va être quand même assez individuel à expérimenter. Et quand il va être ingéré, intégré, s'il est en carence, parce qu'il y a des symptômes hein, qui parlent de ça, on peut être très fatigué, mm-hmm. on peut avoir des sautes musculaires, parce que ça agit sur des contractions musculaires, des engourdissements, on peut avoir les mains chaudes, les mains froides, mm-hmm. des variations thermiques comme ça. Voilà, tout un tas de symptômes qui peuvent arriver et nous informer de ça, le cœur qui bat vite, les choses qui se ralentissent ou qui vont au contraire être hyper excitées. Et quand on va prendre ce magnésium, ça va commencer à induire un calme, à ralentir et à venir aider l'organisme à se poser. Et les différentes formes, alors la forme locale, j'en utilise une parfois.
Ah oui.
Quand j'ai cherché à comprendre, c'est pas documenté en fait scientifiquement. Okay. On retrouve pas de passage des choses. J'ai une vision hein, toujours. Je me dis dans les extrêmes, il y a toujours une raison au milieu. Mm-hmm. Alors je l'écoute souvent. Ceux qui disent non jamais, ceux qui disent oui toujours. Mm-hmm. C'est selon en fait. C'est à expérimenter. Je pense que dans des activités sportives, dans des moments de grande contracture physique et de moments, par exemple, un ventre peut être très tendu, bah, y a l'action mécanique déjà du massage et de ce que le corps va pouvoir intégrer comme message aussi par rapport à ça. Et voilà, comment ça va s'intégrer.
C'est vrai que le magnésium, on a tellement de formes, c'est hyper dur de pouvoir trouver... ce qui nous convient, il faut vraiment ne pas avoir peur d'expérimenter complètement.
Non, c'est sûr, il y a des formes. On peut même l'utiliser pour nettoyer son intestin. Mm-hmm. C'est utilisé dans des cures et c'est efficace. Et ça va être un effet tout à fait différent, mais sur des troubles du transit ralenti. Et je pense que quand on est en déséquilibre profond et que vraiment en difficulté, ces formes nouvelles. Les glycérophosphates, les bisglycinates, par exemple, sont vraiment bien tolérés, assez documentés et d'expérience. Alors, il faut des vitamines B, c'est intéressant. De la taurine peut aider, bien qu'il y ait quelques patients qui ne la supportent pas, ça excite un peu. Bon, c'est selon, mais ça améliore son absorption. Et voilà, d'y aller doucement et puis d'expérimenter suivant le besoin. Développer ça.
Top. En tout cas, on essayera... je continue avec des choses que j'ai lu pas mal de choses. Donc, du coup, je vais te faire une petite liste.
Allez.
Mais je trouve que ça montre ensemble quelque chose de général entre l'équilibre émotionnel et le microbiote. Mm-hmm. Donc, c'est quelques faits. Le premier fait, c'est qu'on a de plus en plus d'études qui mettent en lumière le lien entre l'inflammation et la dépression. Mm-hmm. Et on sait aujourd'hui que 40% des patients déprimés présente une inflammation chronique de faible intensité avec des marqueurs élevés dans le cerveau, le sang et le système digestif. Mmh. Et apparemment, l'alimentation joue un rôle clé dans cette régulation, surtout quand on parle d'une consommation excessive d'aliments ultra transformés, riches en graisse animale versus un régime de type méditerranéen qui semble au contraire la réduire. Le second fait... Donc, en parallèle, il y a eu des recherches menées par l'Institut Pasteur, l'INSERM et le CNRS, qui a montré qu'un déséquilibre du microbiote intestinal pouvait provoquer un effondrement de certains métabolites essentiels contribuant à des symptômes dépressifs. Et ça suggérait que nos bactéries intestinales ne se contentent pas d'aider à la digestion, mais influencent aussi directement notre santé mentale. Et enfin, le troisième fait... c'est que quand on cherche les meilleures façons d'avoir un microbiote équilibré, il y aurait une dominance des firmicutes par rapport aux bactéroïdétes observées dans certains cas d'inflammation, d'obésité et de troubles métaboliques. Donc on a l'impression que nos émotions peuvent être impactées directement par l'alimentation et que selon ce que l'on mange, on va pouvoir avoir... un meilleur microbiote et donc moins de symptômes qui soient liés à la santé mentale. Est-ce que j'ai bien tout mis dans le bon ordre ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça?
Alors, comment je vais poser ça dans un ordre? Je vais commencer dans le microbiote.
Ouais.
On a un microbiote qu'on hérite à notre naissance de celui de notre mère. par le passage de la filière génitale. Et il va se construire avec une ambiance, des antibiotiques, du stress ou pas, un lait qui est équilibré, puis une alimentation qui va être méditerranéenne, si on vit près de la Méditerranée ou si les parents sont dans cette direction-là, ou des alimentations plutôt très saturées, mais ça peut être aussi la culture. Et certaines cultures ont des alimentations assez particulières et s'en sortent très bien. Mais c'est leur culture et c'est leur équilibre. Et ça donne un équilibre. Donc, tu as cité les Firmicutes, Bacteroidetes. Voilà, on pourrait citer toute une sorte. C'est pas là le centre, je pense. C'est vraiment de dire, il y a un équilibre. Et dans cet équilibre-là, si l'alimentation change, ça avait été observé sur des populations qui avaient une alimentation très saine et qui ont eu une industrialisation hyper rapide. Et on a vu exploser les diabètes, les cancers, les maladies auto-immunes de façon indirecte, mais c'est surtout tout ce qui était pathologie cardiovasculaire. Parce que d'un coup, les personnes se mettaient à prendre beaucoup de poids dans cette alimentation qui est, quand on parle de, du sucre ou des graisses saturées, on entend quelque chose... Bon, le sucre, c'est bon, mais dans le saturé, on entend quelque chose qui est déjà saturé. Ben, ce qui est saturé, c'est pas en mouvement. En gros, c'est des déchets pour le corps. Et qui dit déchets, ben, on va les manger et ça va devoir être éliminé. En tout cas, ça va pas apporter l'énergie nécessaire. Et quand ça va arriver, si c'est pas l'alimentation habituelle, donc c'était ces populations qui avaient des grands changements rapides, ça va créer des déséquilibres. C'est-à-dire ce qui est nourri à l'intérieur, cette magnifique flore avec ses milliards d'individus, des familles, c'est comme des peuples dans un pays où il y a plein de peuples différents. Tant que c'est l'équilibre et qu'il n'y en a pas un qui se met à vouloir diriger le pays, ça va, quoi. Si c'est un déséquilibre de population dans un même pays, à ce moment-là, qu'est-ce que ça emmène? Est-ce que cette population, elle a une enzyme, c'est-à-dire un petit outil, une petite arme, qui dégrade un neurotransmetteur, une chimie du cerveau, ou qui dégrade une chimie de la machinerie de l'insuline, ou qui va dégrader quelque chose, ou la chimie hormonale aussi féminine, par exemple. Et si on le fait, si ce déséquilibre est créé, déjà, ça crée ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire il n'y a plus l'équilibre biotique, il n'y a plus cet équilibre, on a un déséquilibre. Et ce déséquilibre génère eh bien, une guérilla, une sorte de feu qui va demander une immunité qui va s'activer. Et dans cette magnifique activation, dans ce déséquilibre, eh bien, il n'y a pas les bons nutriments qui vont rentrer dans l'individu. Et parfois, il n'y aura pas les outils qui seront correctement absorbés pour fabriquer la chimie du cerveau, par exemple. En sachant déjà, par exemple, pour la sérotonine, qui est une hormone importante, enfin un neuromédiateur important de notre cerveau, un neurotransmetteur, si elle est fabriquée énormément dans l'intestin, presque plus que dans le cerveau, enfin même bien plus, et dans cette fabrication, s'il y a ce feu, le feu va faire que les outils de fabrication de cette sérotonine vont être détournés pour fabriquer des pare-feux. Et alors, on se retrouve avec peu de sérotonine. Et si on n'a pas beaucoup de sérotonine, la vie est beaucoup moins belle. Et la dépression ou ces lilas peuvent exister. Il y a plein d'autres mécanismes, c'est assez simplifié. Mais voilà, c'est un des mécanismes, oui.
Et du coup, pour obtenir cet équilibre, est-ce qu'on doit toujours, du coup... être en équilibre ou est-ce que comment on peut savoir vraiment si on s'est vraiment équilibré à l'intérieur c'est pas facile je pense que soit on doit faire des tests soit il faut toujours faire attention à son alimentation vraiment pour se dire voilà ça c'est sûr que ça apporte vraiment quelque chose à mon microbiote. Est-ce qu'il faut prendre toujours des probiotiques qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, du coup, pour nous, un microbiote qui soit sain et équilibré?
Déjà, j'ai envie de répondre à une partie de ta question.
Oui.
Qui est, quand je suis déséquilibrée, c'est quoi les outils d'information? On est habitué en médecine traditionnelle à écouter le déséquilibre et à poser une réponse au déséquilibre qui en crée d'autres. En tout cas, par exemple, un antibiotique, certes, c'est pertinent, ça sauve la vie d'un individu si c'est nécessaire, mais derrière, la vie du microbiote en est grandement défavorisé. Et si c'est répété dans la vie d'un enfant, on sait que son microbiote va être perturbé. Et peut-être que ce feu-là favorisera le développement de certaines maladies s'il a ces maladies dans son ADN, dans son identité. Et donc, quand on est parti sur cette base-là de se dire qu'est-ce que c'est le déséquilibre, c'est ben, j'ai besoin d'un avis d'un médecin ou d'un soignant parce que j'ai certains symptômes. Et à ce moment-là, on va commencer, avec la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, à commencer à mettre des reliances avec l'histoire du patient et à quel moment est arrivé le déséquilibre. Ou qu'est-ce que c'est son équilibre ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont jamais connu d'équilibre. J'ai plein de patients qui viennent me voir, beaucoup. Mmh. Et moi-même, j'ai longtemps, il y a des choses où je vais beaucoup mieux maintenant que je n'ai été enfant, en fait. Des états d'équilibre que je connais maintenant par rapport à ce qui était avant. Donc, c'est déjà identifier qu'est-ce que ça pourrait être un état d'équilibre, sachant qu'on consulte, parce qu'on n'est pas bien sur des infections ou des troubles de mémoire ou de tristesse ou des maux de ventre. Et donc, tendre vers un état d'équilibre, c'est déjà bien se connaître, bien identifier voilà, où on en est dans l'état de déséquilibre. Et ça, c'est là où la relation avec un thérapeute est vraiment importante, déjà de poser un point, un là. Et après, de faire le chemin d'aller vers ça serait quoi un état d'équilibre et comment on le fait.
D'avoir un point de référence, oui, en fait.
C'est ça, d'avoir un point de référence, un levier. Parce que sinon, on se perd. Sinon, on continue à aller chercher plein d'espaces solutions et à ne pas se sentir bien en disant « mais je mange bien, je fais du sport, je suis gentille avec tout le monde et puis je développe un cancer, il se passe quoi ?» J'ai déjà été sollicitée avec des questionnements comme ça et c'est vrai que c'est douloureux d'abord d'entendre ces questionnements-là parce qu'effectivement, si la personne fait de son mieux et que ça n'arrive pas, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, hein, sa vie personnelle, etc. Mais dans cet espace, définir un équilibre, ben, ça serait dire, OK, quelle va être mon alimentation saine ? Parce qu'il n'y a pas une alimentation saine. On ne digère pas tous l'alimentation méditerranéenne.
Oui.
Bah, déjà de base. Et pourquoi on ne la digère pas ? Ben, parce qu'on n'a pas les chemins. Peut-être ces déséquilibres, là, que tu nommais tout à l'heure, sont depuis toujours dans mon corps.
C'est génétique.
C'est là, c'est présent. Je l'ai reçu à ma naissance, je l'ai développé, je l'ai entretenu par l'alimentation familiale et mon alimentation d'adolescent, voilà, et d'adulte stressé. Et j'arrive à un état de ma vie où retrouver une alimentation va demander un état de vide, de pause à nouveau, de trouver des techniques pour petit à petit faire les changements.
Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, il a fallu aussi que je trouve mon point de référence. Tu veux me dire, ça, c'est bon, là, je suis bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je trouve que c'est vrai qu'on est un peu perdu, parfois. Je vais peut-être raconter un peu ma vie, mais je me dis, c'est toujours bien d'avoir cet exemple-là. Et je veux bien en parler, il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, j'habite du coup à Berlin, en Allemagne. Souvent, les médecins ont l'habitude de donner des antibiotiques avec des probiotiques, justement pour essayer de minimiser les conséquences. Mais j'ai dû prendre beaucoup d'antibiotiques à différents moments dans un espace court et je n'ai pas eu l'automatisme de prendre soin aussi de mon microbiote à ce moment-là. Et dans tous les cas, en fait, il y a eu des symptômes de nausées et de vomissements qui ont continué sur plusieurs années. Et en fait, dès que je parlais aux médecins ou même à l'hôpital, les gastro-entérologues, etc., on me donnait des anti-vomitifs directs. On n'allait pas trop chercher la cause. Et du coup, j'ai testé un anti-vomitif de base, et on montait graduellement jusqu'à ce que je prenne quelque chose que, en fait, les patients atteints de cancer prennent à 10 euros la pilule. Et quand ça marchait pas, bah, tout de suite, on m'a dit que c'était dans ma tête. Et on m'a envoyé directement en psychosomatique. Et du coup, j'ai eu deux chemins parallèles, mais pas forcément croisés entre le psyché, peut-être le trauma, de l'autre, la symptomatique. Du coup, on essaye juste d'effacer mes symptômes. Et du coup, j'ai l'impression que en parlant avec d'autres personnes de mon entourage, en parlant aussi parfois avec des spécialistes, des thérapeutes, on n'a pas le temps d'aller chercher les raisons ou les causes. On va juste essayer d'expédier les patients chez quelqu'un d'autre, peut-être un spécialiste, mais pour ça, il faut aussi prendre le temps. Est-ce que toi, quand tu es en consultation, tu as l'impression aussi que ces personnes-là, elles sont déroutées, qui sont peut-être dans la même situation que moi, déroutées, et ils vont voir aussi d'autres, beaucoup de spécialistes. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, dans les gens qui sont, comme moi, dans une errance médicale, pratiquement, pour pouvoir se retrouver et pas faire en sorte que le cerveau soit trop impacté de ces symptômes, ou au contraire que le cerveau ait trop d'influence sur la maladie?
C'est mon quotidien, ce que tu racontes. Et le choix que j'ai fait médicalement pour le poser dans mon histoire, c'est de laisser l'espace-temps aux patients pour écouter alors les pratiques médicales solutions que j'emploie au quotidien, qui vont de l'allopathie à l'homéopathie à la micronutrition, à l'écoute sensible, à l'écoute symbolique du corps, viennent déjà un peu de balayer l'espace qui peut se vivre au cabinet, comme dans plein de cabinets de médecins qui font ce choix-là. Et de laisser cet espace-temps permet déjà qu'il y ait le dépôt de tout le chemin. Moi, j'aime quand les patients ont fait tout le chemin médical. Parce que je me dis, allez, donc je les laisse me déposer tout ça, puis je dis, OK,
le gros dossier sur la table.
Ça, une vertu, c'est qu'on est quand même dans une société qui a cette étape-là. Pourquoi on est en train de parler toutes les deux de micronutrition, de cette médecine fonctionnelle et nutritionnelle? Parce que le chemin des connaissances du corps, je dirais par plein de médecines anciennes et de grandes connaissances et de grandes compétences, amène des informations, et que la médecine et les sciences, la recherche médicale, ça se recoupe. Enfin, en tout cas, moi, je vois le recoupement. Et donc, j'essaye de faire ce travail d'associer. Et une fois que tout le chemin, c'est l'habitude aussi des patients d'avoir besoin d'une réponse rapide quand on souffre, quand on a envie de vomir tout le temps, ou quand on est en grande détresse psychologique. Si je leur dis d'emblée, 18 mois de chemin pour poser un rythme,
c'est inentendable.
C'est inentendable. Donc je me tais, j'écoute, et ces 18 mois, c'est un exemple sur certaines pathologies qui me viennent en tête, mais c'est le chemin. Et l'habitude de réponse rapide, elle est tellement engrammée, elle est tellement inscrite dans nos cellules, dans nos cerveaux, que c'est difficile d'attendre. Alors, il faut déjà se déposer. Et le fait d'avoir fait tout le chemin médical, je crois que, entre guillemets, je vais pas mettre de... Je crois que, heureusement, c'est le chemin actuel. Ça permet aussi de lâcher toujours la petite pensée, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Parce que quand même, maintenant, on trouve des anticorps à toutes les maladies. Oui. Vraiment, de plus en plus, je vois des patients qui arrivent avec des symptômes qu'il y a 5 ans, on traitait et puis on cherchait des solutions. Maintenant, ils ont un anticorps, truc, machin, qui fait qu'ils vont avoir un immunosuppresseur. Et donc ces avancées, ça aussi, l'effet que des gros thérapeutiques arrivent. Mais déjà, en déposant l'étape d'accueillir que ce chemin allopathique est fait, ça peut permettre de faire ce lien entre le psychosomatique. C'est même pas un lien. C'est de fait, nous avons un cerveau, nous avons un corps, un soma. Il s'exprime et c'est dans l'ordre des choses, il ne peut pas en être autrement. Donc c'est comment on écoute ces deux parts-là, comment on laisse l'espace au patient de s'exprimer, de pouvoir avoir l'espace de déposer ce qu'il vit et de trouver les leviers. Après, j'ai toujours l'image, il y a une pelote de laine, il y a un chat qui a joué avec pendant quelques années, et là, j'ai chopé un petit fil, l'attraper et puis délicatement me servir de levier. Est-ce que ça va être un levier par l'accompagnement psychologique qui va parfois permettre qu'on ait un delta, un petit temps, pour pouvoir s'occuper du corps plus tranquillement, parce qu'il y a un apaisement? Est-ce que ça va être, sur un désordre, par exemple, du microbiote qui est suffisamment équilibré, entre guillemets, ce qui est un peu une antinomie de le dire comme ça, mais proposer un probiotique ou un prébiotique ou un postbiotique, parce qu'il y a ces trois endroits-là, qui va laisser le temps de temporiser pour qu'on puisse faire le travail psychologique. Mais de toute façon, ce travail global, il doit se faire. C'est pas, pour moi, ça n'a pas de sens de ne pas faire cette corrélation. et cet ensemble.
Du coup, il faut juste prendre le temps.
Se laisser le temps. Cette pause du nerf vague. C'est quand tout est activé et dans le feu. Si on ne laisse pas l'espace de respiration, de toute façon, il n'y aura pas l'espace de... Enfin, cet espace de respiration, ça a l'air de rien. Mais le corps, c'est dans ces temps-là qu'il répare. S'il n'y a pas de temps de réparation, mais on ne construit pas sur des gravats et on ne construit pas sans avoir enlevé ce qui n'allait pas. Hein. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que ces temps, ils sont délicats. C'est vraiment là où il faut être présent auprès du patient et accepter de se voir régulièrement.
En tout cas, pour moi, c'était vraiment le temps, l'acceptation aussi de dire que ça ne va là, pas et ce n'est pas grave, on continue. Et aussi la découverte de faire des petits changements qui ont des résultats sur le long terme. Ça a déjà donné beaucoup d'améliorations. Mais si on considère aussi que il y a beaucoup d'autres choses qui impactent notre santé, notre environnement, même pas juste l'alimentation équilibrée pour avoir un bon microbiote, il y a aussi parfois d'autres facteurs comme l'alcool, même parfois des substances qu'on ingère directement. À la fin, tout passe en fait par notre système digestif avant d'influencer le cerveau. C'est ça en fait. Que je comprends, en tout cas.
Oui. Peut-être ce que je pourrais poser dans cette interface, quand j'ai commencé ces médecines-là, on disait assez simplement, parce que c'était quand même je l'appelle ça la belle époque, on en rigole parfois avec certains collègues, il existait 3 probiotiques, il y a entre 15 et 20 ans avant. C'était assez facile, on guérissait tout le monde avec peu de choses. Parce qu'on avait moins d'avancées. Plus on comprend et plus on affine les choses. Mais on disait toujours que l'intestin donne le « là ». C'est un organe en médecine chinoise qui donne... D'abord, qui choisit, qui discerne ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. C'est quand même énorme.
Oui, c'est vrai.
Alors du coup, c'est une nécessité de l'écouter.
Chez Sunday, on s'intéresse beaucoup au thème de la longévité. Et dans le cas de la longévité, l'un des plus grands ennemis, c'est la démence. Car elle entraîne un changement de personnalité. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre l'intestin et la démence ?
Il est, dans ce que j'ai pu chercher et trouver, pour moi en tout cas, il est assez évident ce lien. On repassera par les chemins du déséquilibre du microbiote, cette dysbiose, ce déséquilibre qui fait que certaines familles fonctionnent plus que d'autres. Cette inflammation, on a assez bien explicité tout à l'heure, qui crée un feu. Ce feu, il n'est pas forcément évident. On ne va pas le voir sur des prises de sang, forcément, d'ailleurs. On peut le repérer sur le corps, sur des petites réactions. Je fais un rhume, et puis au lieu de durer 5 jours, ça dure 15 jours. Ou je me fais une petite plaie, et puis c'est rouge, c'est gonflé. Enfin, je ne cicatrise pas très vite. Par exemple, des petites choses comme ça, ou une tendinite qui dure plus qu'une tendinite. Bon.
En tout cas... Oui, le lien directement, la tendinite...
Sur l'inflammation, le fait de cette inflammation, dire qu'il y a une inflammation de fond qui ne se voit pas sur les prises de sang, parce qu'on pourrait dire j'ai pas de prise de... c'est une prise de sang normale, il n'y a pas de marqueur d'inflammation. Et donc, je ne suis pas inflammée. Et c'est là que s'il y a une inflammation de fond qui peut être là, sur cette inflammation, elle va créer des troubles... On appelle ça des métabolismes, des systèmes de transformation, comme celui du sucre, comme toute une inflammation qui peut amener à des diabètes, qui peut amener à des déséquilibres. Et quand on a ces déséquilibres-là, on a un peu tous les systèmes de création de nos protéines, de nos agents effecteurs. Moi, je mets l'image qui se caramélise, qui dysfonctionne, qui sont moins fonctionnels. D'où le chemin possible vers ces démences. D'autres chemins sont étudiés, comment le microbiote, certaines familles de microbiote seraient directement en talk, ça cause avec le nerf vague et tous les systèmes de remontée d'informations et aller perturber toutes les protéines qui sont en lien avec ces démences. Voilà, par exemple, quelques chemins qui pourraient être évoqués.
Et du coup, quels seraient tes conseils aux personnes qui nous écoutent pour concrètement améliorer ou en tout cas prévenir cette démence ou au moins avoir une bonne connexion entre son intestin et son cerveau? Est-ce qu'il faut du coup bien manger ou manger beaucoup de produits fermentés? D'abord gérer son stress, c'est quoi l'ordre?
Déjà, je mettrais le premier ordre, s'il y en a un, c'est bien se connaître. Donc être accompagné pour commencer à se connaître. s'autoriser à parcourir son histoire pour aller repérer quels éléments ont été fondateurs de ces déséquilibres. Travailler son alimentation, c'est un chemin, hein, parce que c'est long à changer et trouver sa propre alimentation. Il n'y a pas de sans si avec ça, à tel rythme, machin. Les vérités absolues, je ne les pratique pas et j'essaye d'en sortir le plus souvent avec les patients pour identifier son alimentation. Et tout ce qui est de l'ordre de la vie en communauté et avec l'autre, c'est-à-dire trouver des espaces pour soi et trouver son équilibre des outils de pratique, d'exercice, de ressourcement, de retour vers soi pour créer ça, ces espaces-là. Voilà dans l'ordre. Et tous ces outils merveilleux que sont certains apports de micronutriments qu'on identifie, qui sont vraiment en carence et... Ben, c'est pas grave de prendre des outils et de remplir une carence, même s'il y a la fuite qui continue. Enfin, on donne bien des antibiotiques à quelqu'un qui est très très mal, en attendant qu'il n'ait plus la pathologie qui favorise ces infections. Ben, c'est la même chose, mais d'un ordre plus vertueux, à mon sens, c'est-à-dire d'apporter les bases qui vont permettre la reconstruction, stabiliser quelque chose pour pouvoir faire ce travail qui est un peu plus long.
Merci en tout cas pour tes conseils. Je pense que ça va en aider plus d'un. En tout cas, au moins de comprendre un peu mieux que ce qu'on fait aussi a un impact qui peut être ailleurs. À chaque fois, pour les derniers épisodes que j'avais, je fais toujours un petit quiz ou un petit jeu, quelque chose comme ça. Et là, j'ai trouvé quelque chose que j'ai appelé littéralement « physiquement ». Je me suis rappelée, en fait, plein d'expressions françaises quand j'ai réfléchi à mes questions. Et je me suis dit, est-ce peut-être pas anodine ? En tout cas, et elles font souvent un lien entre les émotions et le ventre, tout ce qui est sous le nombril. Je voulais t'en lire certaines et peut-être tu m'en dis plus si c'est littéralement, physiquement vrai. Alors, la première, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre.
C'est une expression qui est rigolote. Je pense que ça peut partir... Tu sais, tu disais les enfants qui jettent sur le sucre.
Ah oui.
Des déséquilibres du microbiote, ça peut parler de ça. C'est-à-dire un microbiote qui appelle avec la tête, par le biais de nos chemins qu'on a évoqués, succinctement, mais qu'on a évoqués, et qui dit « va manger ça, parce que c'est bon, ça va nourrir, par exemple, pour le sucre, le champignon qui se développe dans ton ventre.
» Super.
Et donc là, les yeux, ils réagissent.
Il y a aussi les yeux plus gros que le ventre quand on a envie de manger plus que ce qu'on peut.
Ça parle aussi des désordres émotionnels qui sont dessous, c'est-à-dire des déséquilibres qui peuvent être liés aussi. On pourrait amener ce même chemin. Un intestin pas confortable, un déséquilibre de la flore intestinale, déséquilibre des neuromédiateurs, tous ces instruments de régulation de nos humeurs. Et de fait, ben, un comportement alimentaire qui va chercher à compenser ça. Ouais, vraiment.
On a la seconde qui est avoir la boule au ventre.
Ouais, la boule au ventre, la peur au ventre,
lourd.
Oui, ben, d'abord parce qu'il se contracte, hein, pour de vrai. Hein, quand on disait le nerf vague qui excite, si on est en danger tout le temps, il y a une contraction véritable. Des fois, en coloscopie, il y a eu des résultats disant intestin sidéré ou spasmé, bien sûr. Bien sûr, mais on ne peut pas les faire.
Du stress
C'est un intestin spasmé. En général, les gastro-entérologues disent « allez voir quelqu'un pour gérer ce problématique-là ». Donc oui, bien sûr. Donc ça crée une contraction véritable, on pourrait dire ça.
Et un peu plus léger, avoir des papillons dans le ventre.
Oui, oui, l'amour.
Oui. L'amour ça, dans le ventre.
Dans le ventre, ouais, ça peut parler d'une sensation, je sais pas, alors c'est mon imaginaire qui va venir là, et des émotions de ma vie aussi, d'avoir cette sensation de liberté, de se sentir bien dans son ventre, d'avoir de l'espace en fait.
Ouais.
Et du coup, il peut y avoir ces petits glouglous là, tranquilles.
On peut tout ressentir.
On peut être présent. Le papillon, ça parle de la métamorphose, de la transition et de la transformation.
Ah oui.
Alors,
on est prêt à tomber amoureux, quoi.
Ouais.
ça revient, je pense, avec la boule qu'on évoquait avant, avoir l'estomac noué.
Oui.
Et littéralement, apparemment, c'est le cas.
Oui, puisque c'est un organe qui est très, très... Enfin, ça va aller tout de suite. Hein. On est vraiment dans l'acceptation des choses au niveau de l'estomac. Dans la médecine chinoise, on parle de ça aussi, en symbolique. Donc, c'est vraiment la contraction spasmodique par l'effet du stress et des hormones du stress, qui est, de toute façon, ça ne va pas rentrer, c'est noué. Mmh. Quoi. Et là, ça fait des jolis nœuds, ça fait des glouglous quand ça...
Justement, tu disais que ça passe par l'acceptation, et là, je vois ne pas digérer quelque chose. C'est justement quand on n'accepte pas quelque chose. Oui. Et on peut même dire ne pas pouvoir avaler quelque chose quand c'est des bobards ou une rupture.
Oui, oui.
Du coup, c'est...
C'est vraiment
ce endroit-là. Tu disais, c'est en médecine chinoise, du coup, qu'on dit que... C'est accepté ?
Oui, en tout cas, je ne suis pas une spécialiste, mais j'aime beaucoup, je m'y suis beaucoup intéressée. C'est, sur l'intestin grêle, c'est l'organe où on parle du discernement, l'émotion, le fonctionnement associé. Et c'est l'endroit où on capte, on va chercher la plupart de nos nutriments. On en récupère encore quelques petites choses dans le gros intestin, mais c'est surtout là. Et oui, ça parle d'accepter tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à la sortie. Ça parle d'acceptation.
Et quand on n'est pas très bien, on a peut-être l'estomac dans les talons.
Oui, c'est une expression
beaucoup plus bas.
Oui, ça me parle moins cette expression quand on dit l'estomac dans les talons. Pour moi, c'est être très 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 affamé, tellement qu'on s'est oublié et qu'on en est jusqu'à être vide jusqu'en bas.
Ah oui.
Et que ça parlerait de cet endroit-là. Ouais, peut-être.
Mmh. Ensuite, j'ai être écœuré et je trouvais ça intéressant entre le cœur et l'intestin.
Oui, oui. Oui, cœur et intestin grêle fonctionnent ensemble dans la médecine chinoise, c'est les organes de l'été. Et oui, il y a le vague, le nerf vague, il est aussi dans les régulations autour du cœur. Et bien sûr que ça passe par cette acceptation-là. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'acceptation, il faut aimer ou pas, ou discerner ou pas si on aime, peut-être. C'est une proposition.
L'avant-dernier, c'est prendre aux tripes.
Oui.
Prendre aux tripes, quand c'est une grande émotion,
les tripes,
c'est
autre
chose.
Prendre aux tripes, c'est une autre forme. Quand c'est évoqué comme ça, ça me prend aux tripes. C'est vraiment... ça vient chercher sur les bases fondamentales l'intestin. En symbolique du corps aussi, on parle de la flore intestinale, c'est aussi comment on a intégré le monde extérieur à l'intérieur de nous. Mmh. Et c'est une façon d'être en interaction avec le monde que d'être bien avec cette flore-là. Et quand ça vient chercher aux tripes, ça vient chercher vraiment dans les fondamentaux de l'interaction avec les autres, en fait. Et l'alimentation, c'est une magnifique interaction avec les autres.
Le dernier, c'était simplement l'estomac serré.
Oui, voilà, comme on le nommait tout à l'heure, ça va comme... serré, en laissant la pensée partir comme ça, ça me parle du contact aux autres aussi, d'avoir peu d'espace en soi. C'est un organe, là, l'estomac, où on est sur la zone de transition entre tout ce qui est aérien et de la pensée, de l'air et tout ce qui est de la matière en dessous du diaphragme. Et s'il est serré, cette zone de transition, c'est qu'il y a peu d'espace pour soi, peu d'espace pour la confiance, l'estime. Et
Du coup, moi, ce que je retiens, c'est prendre le temps, s'écouter, accepter et juste prendre soin de soi, en fait.
Oui, vraiment.
Merci, Nathalie, d'être
Avec
venue.
Avec joie. Merci pour ton invitation.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.